Chapitre 22e, Il Sandwich. Kukini, baie de Kayakoa, Kairoa, Morai, contraste. L'histoire des voyages, avec elle toutes les histoires, disent que Cook a découvert les îles Sandwich, qu'il dotait du nom d'un grand ministre. Eh bien, toutes les histoires ont menti, ou du moins, toutes sont dans l'erreur, et il demeure avéré que c'est l'Espagnol Gaetano qui, le premier, a découvert ce magnifique archipel agité par tant de commotions terrestres. Les pirates infestaient les côtes ouest de l'Amérique. Des combats heureux, où une longue et périlleuse navigation par le Cap Horn pouvait seule fournir les moyens de ravitailler leurs navires appauvris par de pénibles croisières. Gaetano leur fit une chasse à outrance, et dans une de ses courses chaleureuses vers l'ouest, il vit à l'horizon un point noir qu'il prit d'abord pour un vaisseau ennemi et il mit bravement le cap dessus. C'était Ouillet. De retour à Lima, il écrivit à Charles Quint, et lui faisant part de son heureuse découverte, il demanda la permission d'en diminuer la position sur sa carte d'une dizaine de degrés afin de ne pas la signaler aux écumeurs de mer, ce à quoi le monarque consentit par des raisons politiques dont on comprend la sagesse. Ainsi Gaetano plaça la principale de Sandwich par 9 et 11 degrés au lieu de la placer par 19 et 21 degrés, espérant par là mettre en accord sa gloire et les intérêts compromis de l'Espagne. Au surplus, tant pis pour qui a le triste courage de se résoudre à cacher un succès. Un autre vient plus tard qui se l'approprie en le publiant, et quoique les cercles de fer que le grand capitaine Cook trouve à Ouillet et la crainte que les insulaires témoignés à l'aspect seul des armes à feu plaidassent la cause de Gaetano, l'histoire des voyages est sage de désigner Cook comme le trouveur de ce groupe d'îles de lave, destiné à être un jour d'une grande importance dans les relations commerciales de l'Europe avec les Indes orientales. Quant à nous, dès que le vent nous eut accompagnés jusqu'à une lieue et demie de la côte, nous l'allongeâmes sous peu de voiles et cherchâmes la rade de Caracacoa, où nous voulions laisser tomber l'ancre. Pendant toute la journée, nous tournâmes la base gigantesque de Mauna Lae, sans que la montagne changeât sensiblement de forme dans le cône irrégulier. Nue au sommet, nue sur les flancs, à peine son pied présentait à l'œil quelques touffes de palmistes sous lesquelles le flot vient expirer. Le lendemain du deuxième jour, nous nous trouvâmes en face d'un petit village composé d'une vingtaine de huttes, d'où se détacha une pirogue pagayée par deux hommes qui mirent le cap sur nous. À peine arrivés à la portée de la voix, ils s'arrêtèrent pour nous adresser quelques paroles auxquelles nous répondîmes à l'aide d'un vocabulaire anglais, mais nous ne pûmes parvenir à leur faire comprendre que nous cherchions la rade de Caracacoa. Un autre petit village, nommé Caïa, situé au fond d'un ravin, se montra bientôt et de là encore cinglèrent vers nous de nouvelles pirogues portant une douzaine de naturels à la mine farouche, à la voix éclatante, qui malgré nos signes d'amitié refusèrent de monter à bord. Cependant un sandwichien s'était jeté à l'eau et, plus courageux que les autres, il nous aborda pour nous demander sans doute si nous voulions être pilotés jusqu'au mouillage. Mais comme dans le lointain on découvrait, à l'aide des longues vues, des bâtisses et une anse bien abritée, nous laissâmes là l'audacieux nageur qui regagna sa pirogue et nous cinglâmes vers Kayakoa sans nous douter que Caracoa était déjà derrière nous. Mais le calme nous surprit en route. Nous passâmes la nuit en face d'un village nommé Creil, bâti sur un rocher à pic et de peu d'élévation, où la mer battait avec violence. Des feux allumés sur toutes les parties de la côte nous disaient que là aussi étaient des êtres vivants. Mais leur existence devait s'y traîner bien souffreteuse et bien misérable, car la lave ne donnait prise à aucune couche de verdure, car tout était mort sur le penchant du cône, dans les flancs duquel bout le bitume en combustion. Au lever du soleil, un grand nombre de pirogues à un seul balancier entourèrent la corvette. De chacune d'elles des femmes de tout âge, de toute corpulence, nous demandaient à grands cris la permission de monter à bord. À 6 heures, une grande pirogue à double balancier porta à bord le chef d'un village plus étendu que les autres. Il entra chez le commandant et laissa sa femme. Comme la brise commençait à souffler, le pont fut bientôt déblayé de ses importuns visiteurs. Quelques heures après, nous laissâmes tomber l'ancre dans la rade de Kayakoa, et chacun de nous, selon ses travaux, se prépara à de nouvelles excursions. Quelque chose qui ressemble assez passablement à une sorte de ville bâtie en amphithéâtre était là devant nous, à 2 encablures de la corvette, et à peine notre présence fut-elle signalée à ses habitants réveillés que de toutes les parties de la côte s'élancèrent un nombre prodigieux de belles et grandes pirogues à 1 ou 2 balanciers, les unes pagayées par des hommes, la majeure partie par de jeunes filles à demi couvertes de pagnes soyeux, sollicitant avec mille grimaces et mille prières la permission de monter à bord. Ceci est une capitale nommée Kayeroa. À 9 heures, une grande pirogue, plus élégante que les autres et montée par 12 rameurs, conduisit à bord le chef de la ville. Sa taille était de 6 pieds 3 pouces français, sa figure belle et douce, sa poitrine large, sa coiffure élégante, son sourire enfantin. Il était à moitié couvert d'un manteau qui nous permettait de prendre une juste proportion de toutes les parties de son corps, et il est rare de voir des hommes mieux constitués que ce chef sandwich chien. Du reste, la manière décente dont il se présenta, son langage, il parlait très purement l'anglais, le choix de ses expressions, un enfant qui, armé d'un gracieux éventail, éloignait les insectes de sa personne, cet officier assez bien vêtu qui lui servait d'escorte, l'empressement marqué que mirent les pirogues qui nous entouraient à lui ouvrir passage, l'élégance, la propreté et la grandeur de son embarcation, tout nous convainquit bientôt que nous avions affaire à un personnage d'importance. Nous sûmes en effet, quelques instants après, que c'était le beau-frère du roi, qui s'appelait Kukini, que les Anglais lui avaient donné le nom de John Adams, qu'il était gouverneur de Kayeroa, et de toute cette partie de la côte, et le seul chef supérieur qui n'eût pas accompagné Uriuri ou Atoyai. Dans la crainte de ne plus en trouver l'occasion, on voulut essayer sa force au dynamomètre. Il s'y prêta de bonne grâce, et il fit marcher l'aiguille jusqu'à 93,5, point où personne, depuis notre départ, n'avait encore atteint. Sa vigueur rénale ne se trouva pas en proportion avec celle des mains. Kukini promit au commandant un emplacement propre à établir son observatoire. Il l'assura que le lieu où il ferait ses opérations serait tabou, sacré, pour tous les habitants, mais il le prévint qu'avant de livrer les vivres dont nous avions besoin, il était indispensable qu'il en donnât vie au roi, ce qui nécessitait un délai de 3 ou 4 jours. Il l'assura néanmoins qu'on pourrait, avec des objets d'échange ou des piastres, se procurer à terre quelques provisions, mais que pour de l'eau, elle était très difficile à faire parce qu'il n'y en avait pas de 12 dans les environs et que les naturels n'en buvaient que de saumâtre. Il ajouta que si nous n'étions pas dans l'intention de changer de mouillage, il s'emploierait de son mieux pour nous faire obtenir tout ce qui nous serait nécessaire. Satisfait de ces offres obligeantes, on se disposa à transporter les instruments à terre. La rade de Kayakakoa est grande et sûre, les hautes montagnes qui la défendent des vents les plus constants. La pointe Kourova, ou Pericook, située au nord, et celle de Kara au sud, empêchent que la mer y soit jamais bien haute. La plage est belle. Quelques édifices et 2 chaussées très avancées offrent un sûr abri aux embarcations. La ville de Kayeroa est d'une étendue considérable. Mais les maisons, ou plutôt les huttes, sont si éloignées les unes des autres, principalement sur le penchant de la colline, qu'on ne peut guère les rattacher au quartier de la plaine, ou du moins de petits sentiers battus figurent convenablement des rues et des passages. Plusieurs maisons sont construites en pierre cimentée. Les autres sont faites de petites planches, de nattes ou de feuilles de palmiste très bien liées entre elles et impénétrables à la pluie et au vent. La plus grande partie des toits est recouverte de goémons, ce qui leur donne une solidité merveilleuse. Quelques solives bien ajustées et assujetties par des ligatures de cordes de bananiers leur assurent une durée considérable, et depuis que nous fréquentons des pays à demi sauvages, les cabanes d'ouillers me paraissent les meilleures. Elles n'ont presque toutes qu'un seul appartement orné de nattes, de calebasses et de quelques étoffes du pays. Là, couchent, pêle-mêle, père, mère, fille, garçon, quelquefois même les chiens et les porcs. Vu de la rade, 2 ou 3 édifices ont quelque apparence et font regretter de les trouver, pour ainsi dire, isolés au milieu des ruines. Le plus considérable est un magasin qui se détache en blanc sur toutes les autres cabanes. Il appartient au roi, qui en fait son garde-meuble, mais sans oser lui confier ses trésors enfouis dans un souterrain. L'autre édifice est un morai situé à l'extrémité d'une chaussée s'avançant dans la rade. Le troisième est une maison appartenant à un des principaux chefs de Riu-Riu, lequel, avant de quitter la ville, eut l'adresse de la faire tabouer afin d'en éloigner les curieux et les voleurs. On me donna à entendre que celui qui chercherait à y pénétrer serait à l'instant mis à mort et que le maître de la maison était un homme très cruel et très puissant. Le quartier nord de la ville peut avoir 100 cabanes, dont la plupart n'ont pas plus de 3 à 4 pieds de hauteur sur 6 de longueur. Les portes sont si basses qu'on ne peut guère y pénétrer que ventre à terre, et l'on respire dans ces cloaques infectes un air capable de renverser ceux qui n'y sont pas habitués. de la ville à la haute colline qui garantit la rade des vents du nord-ouest, il y a peu de chemin à faire, et je promenais de là mes regards sur tout le paysage, beau, imposant, pittoresque. C'est de cette colline que les habitants tirent toute leur subsistance, et le cœur se soulève de colère à l'aspect des deux plaines désertes et abandonnées qu'ils circonscrivent de riches plateaux. Ici, en effet, les cocotiers, les rimas, les bananiers, les tamariniers et les palma Christi ont une sève admirablement vigoureuse, tandis qu'au pied, nulle plantation, nul bouquet d'arbres ne se dessine pour protéger les naturels contre cette accusation de paresse dont les ont flétri tous les voyageurs. À la vérité, si l'on assiste au repas des sandwichiens chiens qui ne mangent guère que lorsqu'ils ont faim, on se demandera peut-être à quoi leur serviraient des terres labourées et de riches plantations d'arbustes utiles. Au Marianne, nous avions été déjà frappés de la sobriété des habitants de Guam. Ici, un Marianais serait un glouton, un ogre qu'il faudrait chasser de la ville, et un Européen y mourrait d'inanition s'il lui fallait se contenter de la ration du plus vorace sandwich chien. Tamahama, pendant son règne si agité, si glorieux, avait fait des concessions de terrain à ceux de ses sujets qui consentiraient à les cultiver, se réservant de punir les demandeurs qui n'auraient pas rempli leurs tâches avec activité. Mais son fils Riou-Riou a laissé le peuple agir selon ses caprices et les terres sont demeurées stériles. Au reste, cette triste apathie des sandwichiens pour la culture, ils la portent encore dans toutes les habitudes de leur vie et tel est le résultat nécessaire de l'inertie de leur roi. Tamahama élevait-il la voix pour annoncer une bataille à livrer aux ennemis que lui avait légué son père. Toutes les populations étaient debout. Hommes, femmes, enfants et vieillards se rangeaient, impatients, sous des chefs intrépides. Chacun, au milieu de la mêlée, faisait son devoir de guerrier fidèle et dévoué, et la paix se consolidait. On dit aujourd'hui que le roi d'Atoaï a levé l'étendard de l'indépendance, qu'une lutte est permanente entre les deux monarques, et nulle cité ne s'agite, et nul soldat ne songe à combattre. Riou-Riou s'endort au milieu de ses femmes. Le gouverneur Kukini a deux maisons à Kairoa. La première, celle où il me reçut, est sa maison de plaisance. L'autre est sa citadelle, défendue par deux obusiers sur lesquels on lit « République française ». Non loin de là, et à côté du Grand Morail, est une espèce de rempart en terre et en pierre où sont braquées une vingtaine de pièces de petit calibre protégées par des casemates ou hangars recouverts de feuilles de cocotier. On trouve là cinq ou six guerriers sans vêtements, portant un fusil sur l'épaule et allant d'un pas rapide de l'un à l'autre bout de la fortification. La sentinelle marche, au contraire, à pas très lent le long du rempart qui fait face à la mer. Et au son d'une clochette agitée par une autre sentinelle, la première fait volte-face pour continuer ses évolutions. Chaque faction est d'un quart d'heure. C'est trop pour épuiser la constance et la force de ses guerriers. C'est à côté de ce grotesque bastion qu'une compagnie de nos voltigeurs prendrait en une heure avec des cravaches qu'il faut passer pour aller visiter le tombeau de Tamahama, vers lequel, Bérard et moi, en dépit de quelques sinistres avertissements, nous nous dirigeâmes d'un pas tranquille. Deux sandwich chiens que nous avions pris pour guides nous escortèrent jusqu'à la citadelle, en refusant de nous accompagner plus loin et en prononçant avec effroi le mot tabou « sacré ». Mais voyant notre résolution bien arrêtée, ils nous prièrent de nous détourner de notre chemin pour venir rendre un hommage de respect aux cendres d'un de leurs chefs les plus aimés et les plus glorieux. Une pierre de taille, de 3 pieds de long sur 2 de large, marquait la place sacrée. Les deux sandwich chiens s'en approchèrent dévotement en prononçant quelques paroles à voix basse, parmi lesquelles je crus entendre le mot « Tamahama ». Puis ils grattèrent avec leurs pieds le sol voisin de la pierre, le frappèrent du talon et piétinèrent d'une façon fort grotesque. Avant de pénétrer dans le morail, que les sandwich chiens regardent comme un lieu saint et révéré, on se trouve en présence d'un édifice solidement bâti en varech, renfoncé, ensailli aux angles et recouvert d'une quadruple couche de feuilles de bananier entrelacées avec un art infini. Il est haut d'une quarantaine de pieds, impénétrable à tout regard. La porte d'entrée en est basse, en bois rouge, avec quelques ciselures, fermée par de fortes solives en croix et un cadenas énorme. C'est le lieu où sont pieusement gardés les restes du grand roi, dont on ne prononce ici le nom qu'avec une respectueuse vénération. En vain cherchâmes-nous à plonger un œil indiscret jusqu'au fond du monument. Partout, un double mur serré et compact punit notre curiosité, et lorsque, nous croyant à l'abri de toute investigation, nous voulûmes tenter, à l'aide d'une lame de sabre, de nous faire jour jusqu'au-delà de la première enveloppe du tombeau, un cri terrible arrivait jusqu'à nous, poussé par 300 chiens cachés dans une petite hutte et préposés à la garde du Saint-Lieu, et le mot sacramentel tabou nous arrêta tout net, car nous n'ignorions pas qu'il y avait grande témérité à le braver. Cependant, sans trop paraître déconcerté par les menaces des naturels qui nous regardaient de la plage, du camp retranché et de la limite du terrain sacré que nul n'osait franchir, nous entrâmes dans le morail, fermé par une haie de 2 pieds de haut. À peine en eûmes-nous franchi le seuil, que les insulaires les plus rapprochés se jetèrent à genoux, puis ventre à terre, et en se relevant un instant après, ils parurent étonnés que le feu du ciel ne nous eût pas encore consumés. Aussi, profitant de la permission que la clémence de leur Dieu nous accordait, nous visitâmes et étudiâmes dans les plus petits détails ce champ du repos éternel. C'est un espace à peu près carré de 350 pas au moins, où sont dressées çà et là, les unes debout, les autres assises sur des pieux peints en rouge, les statues des bons rois et des bons princes qui ont gouverné l'île. Ces statues, grossièrement sculptées, sont colossales. La plus grande de ce morail a 14 ou 15 pieds de haut, et la plus petite n'en a pas moins de 6. Elles ont toutes les bras tendus, les mains fermées, les ongles longs et crochus, les yeux peints en noir et la bouche ouverte. Cette bouche est un four énorme où le prêtre dépose, le jour, les offrandes que les fidèles lui confient et qu'il vient ressaisir la nuit en annonçant au peuple crédule que les dieux sont satisfaits. Dans la gueule d'une de ces images étaient encore, à demi pourris, de gros poissons, des régimes de bananes et 2 ou 3 pièces d'étoffe de papyrus, tandis que plusieurs autres portaient sur leurs épaules des débris d'oiseaux au plumage rouge collés à l'aide d'un mastic noir et gluant. Les statues, debout ou assises, rappelaient, je vous l'ai dit, les rois vénérés, mais d'autres idoles renversées et à demi recouvertes de galets figuraient les princes ou les chefs voués au mépris et à l'exécration des hommes. 12 statues étaient encore debout, 3 seulement étaient renversées. Au milieu du morail est une bâtisse beaucoup plus grande encore que le tombeau de Tamahama, et aussi solidement construite, dans laquelle on garde avec un signe d'indifférence les meubles européens du plus haut prix, cadeau fait, il y a peu d'années, par le roi d'Angleterre au puissant monarque des îles Sandwich. George IV reçut en échange de ces magnifiques meubles, dont on comprenait à peine l'usage ici, des manteaux de plumes, des casques d'osier et plusieurs éventails en joncs fort bien tressés, ornent aujourd'hui une des salles du beau musée de Londres. De retour du morail, nous nous trouvâmes entourés par les naturels avec une curiosité si empressée et pourtant si craintive que nous reconnûmes bien qu'ils étaient étonnés de nous voir revenir sains et saufs d'une expédition si périlleuse. De l'autre côté de la ville est encore un morail infiniment plus soigné que le premier, orné d'une 30aine de statues au moins, toutes debout, presque toutes dotées de riches étoffes et de fruits délicieux. Mais le plus beau de ces cimetières est, sans contredit, celui qui domine Kairoa, à gauche d'un chemin conduisant à Koulova. Celui-ci est vraiment magnifique. Les images des rois y sont sculptées avec un soin extrême. La haie qui le borde, faite en arête de cocotier, est haute de 4 pieds, et de tous côtés, sur des pierres polies, sont déposés en faisceau des trophées d'armes, des étoffes soigneusement pliées, des fruits renouvelés chaque jour et souvent aussi de belles chevelures. Au beau milieu de ce vaste cimetière est une immense charpente en bois, haute de 50 pieds, assez solidement bâtie, où flottaient à l'air de volumineuses étoffes du pays, des grappes de bananes flétries, des cocos réunis en blocs et au centre, sur un échafaudage, le squelette blanchi d'un veau. Toucher à ces débris, à ces offrandes d'un ami à un ami, serait s'exposer à de grands dangers de la part des naturels, qui n'entrent qu'en tremblant dans certains morailles, les jours où hommes et cimetières n'ont pas été tabous par les prêtres. J'ignore, au surplus, si ces ovations ou ces flétrissures se font avant ou après la mort des rois, des chefs ou des gouverneurs, et c'est là précisément ce qu'il aurait fallu savoir pour apprécier l'équité des jugements. 2 sandwichiens et 2 jeunes filles arrivèrent à ce morail quelques instants après moi et s'approchèrent d'une idole élevée à l'un des angles de l'enclos. Le plus âgé des visiteurs s'arrêta d'abord, puis en grommelant entre ses dents, il s'avança lentement jusqu'au pied de l'image qu'il toucha 3 fois de la tête. Il en fit le tour en agitant les bras et les épaules comme un homme irrité par des démangeaisons. Le second sandwichien l'imita à son tour et à leur exemple, les jeunes filles piétinèrent autour du dieu de bois. Mais comme elles ne pouvaient en toucher les pieds avec leur tête, les 2 hommes les soulevèrent et complétèrent de la sorte une cérémonie régulière. Après cela, les pattes nôtres recommencèrent de plus belle, les paroles sortirent bientôt plus bruyantes, plus rapides, et éclatèrent enfin comme un violent orage. La prière dura une demi-heure, et lorsque tout fut dit et fait, les quatre pieux individus s'en allèrent, mais en marchant à reculons et en sautillant. Je remarquai au surplus que les jeunes filles, à qui l'on avait appris ces grimaces et ces trépignements si fébriles, y allaient de toute leur âme, car leur petit corps était en sueur, et une ardeur vraiment belliqueuse brillait dans leurs yeux enflammés. Je m'échappai donc du triste morail et je parcourus la ville. Je me dirigeai vers le débarcadère, et je me trouvai en face d'un immense hangar où étaient entassés, protégés par de solides casemates, un nombre prodigieux de pirogues simples et doubles, d'une beauté vraiment miraculeuse. Les meubles de nos plus habiles ébénistes ne l'emportent point sur ces embarcations par le fini du travail et la délicatesse des détails. La plus grande de ces pirogues avait 72 pieds français de longueur, sur 3 dans la plus forte largeur. Les diverses parties de bois qui soutiennent le balancier sont nouées à la carcasse à l'aide de cordes tirées du bananier. On ne peut s'expliquer l'adresse et la solidité avec lesquelles les ligatures sont faites. Une double pirogue, moins grande que la première, avait 60 pieds de longueur. La quille, jusqu'au bout, était peinte en noir, auquel on donne un vernis magnifique avec le suc d'une fleur jaune extrêmement commune dans toute l'île. Il est aisé de s'expliquer le nombre prodigieux de pirogues que possédait Tamahama par l'humeur belliqueuse de ce prince, qui, un an avant sa mort, avait projeté la conquête de tous les archipels de la mer du Sud. Il en avait, dit-on, plus de 18 000, et ses ouvriers étaient sans cesse occupés à en augmenter le nombre. Mais Riou, son fils, galeux et abattardi, laisse tout périr. La paresse des habitants se répand jusque dans les établissements les plus utiles. Ses officiers et ses soldats dorment comme lui quand tous les menacent dehors. Et dans cet immense hangar, où plus de 80 pirogues se trouvaient pressées, un seul ouvrier était là, sommeillant, apathique, endolori de son inaction, et courbé sous le poids du petit et léger instrument appelé Toé, pareil à nos herminettes, mis en mouvement d'une seule main, et à l'aide duquel se creusent et se polissent ces admirables pirogues. Riou est un grand prince, comprenant à merveille que le travail et l'industrie sont la première et la plus solide fortune des peuples. Il n'y a peut-être pas de pays au monde plus curieux à observer que celui-ci. Il n'y en a pas qui offre à un égal degré plus de rapport avec le naturel des hommes qui l'habitent. C'est une étude fort sérieuse à faire, je vous assure, et parmi tant d'êtres qui passent devant vous, vous ne trouverez pas deux exceptions pour démentir la règle générale. Un soleil pénétrant projette ses rayons verticaux sur tout l'archipel. La végétation la plus mâle lutte sans cesse contre les irritations d'un sol bitumeux qui veut tout envahir, qui tend à s'emparer de tout. Point de fleuve qui le traverse, point de lac qui le rafraîchisse, partout la lave menaçante, partout des cratères, et dans quelques endroits une stérilité telle que la presqu'île Péronne elle-même serait un séjour de délices. Voyez cet immense Mauna Lae, qui évidemment est le troisième fils d'une éruption volcanique et dont la base, au bord de la mer, n'est si large que parce qu'il n'a pas eu la force de faire reculer le Mauna Kea et le Mauna Roa, ses terribles et inébranlables voisins. Depuis combien de siècles ces masses imposantes sont-elles sorties des profondeurs de l'océan? Ont-elles grandi petit à petit comme ces gigantesques végétaux africains auxquels il faut 500 ou 600 ans pour monter d'un demi-pied? Ou est-ce tout à coup, dans une de ces effrayantes secousses qui font au loin trembler les continents, que le Mauna Roa a posé ses flancs au niveau des nuages les plus élevés et sa tête si loin de son pied? Ce sont là de ces graves questions géologiques que nul observateur ne peut résoudre et qui eussent fait reculer même la haute pensée de Cuvier. Où est la base de ces trois cônes, dont le moins formidable écraserait encore le pic de Tenerife? Sondez à une lieue au large, et vous ne trouverez pas fond par 2000 brasses. Cela épouvante la raison. Supposez, par une volonté céleste, l'océan à sec. Placez-vous, par la pensée, au pied de ces monts déjà si effrayants, et dites-moi ce que seraient l'Illimani et l'Himalaya, qui trône majestueusement sur l'Amérique et le Tibet. Et maintenant, les feux sous-marins ont fait leur office. Étouffés sous les masses qu'ils ont vomis, deux de ces cônes bouillonnent sans doute encore dans les profondeurs des abîmes. Mais rien de leur fureur ne surgit à la surface. Il y a une immensité de la tête aux pieds de ces géants du monde. Eh bien, étudiez le peuple qui vit autour de ces cratères dominateurs, et vous retrouvez chez lui un reflet de cette âpre et sauvage nature qui vous fait trembler dans votre admiration. Le sang du chien est abrupt, lourd et turbulent à la fois. Son caractère est bon par instinct, et ses manières ainsi que sa charpente ont quelque chose de rude et de repoussant. Toutes ses passions à lui fermentent dans sa poitrine. Il faut une catastrophe pour qu'il les jette dehors, mais alors aussi elles sont terribles. Elles tuent, elles écrasent, elles dévorent. Cook est mort dans une de ses convulsions. Ainsi mourra quiconque essaiera de lutter avec lui à armes égales. Lorsque ce grand capitaine emmenait captif à son bord le roi, dont il croyait avoir à se plaindre en raison du vol qu'il reprochait à ses sujets, on vit les insulaires, au milieu de la mitraille, s'amoncer hardiment sur le rivage et jusque dans les flots, emportant sur leurs épaules les blessés et les cadavres de leurs amis. La veille, ils étaient calmes. Le lendemain, ils ressaisirent leur nature primitive, mais une éruption morale avait eu lieu et l'Angleterre se vêtit de deuil. Que le sang du chien danse, qu'il s'amuse, gronde, caresse ou menace, vous ne vous en apercevrez qu'au moment de l'explosion. D'abord, c'est le repos, que ne trahissent ni les paroles ni les regards. La secousse galvanique a lieu, le délire se montre, et tout retombe, un instant après, comme le cadavre abandonné par la pile de Volta. Rarement le sang du chien est debout, il vit assis ou couché. On croirait que la vie lui est un lourd fardeau, et que, semblable à ses volcans, il a besoin qu'on le réveille. Il est couché quand il navigue dans ses pirogues. Entrez dans ses cabanes, dans ses huttes, vous le trouvez couché sous un énorme volume d'étoffe légère qui l'entoure sans le fatiguer. Son repos n'est pas le sommeil, mais ce n'est pas le réveil non plus. Il ne s'ennuie pas de cette vie de quiétude extatique, puisqu'il se la donne sans qu'on la lui impose, et il ne comprend le mouvement que comme un besoin. Apportez à manger au sang du chien étendu sur sa natte, faites monter le flot jusqu'à sa demeure, afin qu'il puisse s'y jeter, retremper ses membres engourdis, et vous le retrouverez demain, prêt à recommencer l'existence monotone des jours passés, et pas plus que la marmotte, il ne se lassera de son gîte souterrain. Remarquez cet homme si exceptionnel parmi tant d'autres hommes jetés sur le globe. L'océan est calme, la lame expire tranquille sur la plage muette, et nulle brise ne fait bruire les folioles des rares cocotiers. L'homme dont je vous parle, l'homme que je cherche à vous faire connaître, ferme à demi les yeux, s'agite lourdement, se roulant de l'oreiller d'or. Mais que la tempête mugisse, que le tonnerre gronde, que la foudre éclate, que les cocotiers crient sous la rapide rafale, que la vague écumeuse ouvre sa gueule et vienne envahir la plage, oh, alors cet homme est debout et prêt à combattre. Il se place au bord de la mer, il s'élance, il lutte contre le terrible élément qui ne peut le vaincre. C'est une toute autre nature, ou plutôt, c'est une nature réveillée. Il lui a fallu une colère pour allumer la sienne. L'homme des sandwichs se reflète admirablement du sol qui le porte. Je ne vous parle pas de l'enfance ou de la jeunesse, semblable partout, pareil dans tous les climats, hormis chez les Lapons et les Groenlandais, où tout est vieux et en naissant. Vous la voyez aux sandwichs, capricieuse, turbulente, pleine de sève, joyeuse et sautillante. C'est un sang vif et chaud qui n'a pas encore eu le temps de s'attiédir, de s'imprégner des émanations atmosphériques. Elle bondit, elle veut du plaisir, elle le recherche, elle l'appelle, elle le goûte. Et un beau jour, quand elle est vieille, quand les saisons sont venues, il se sent fatigué, s'arrête, se couche et s'endort. Le lion est devenu marmotte. Il y avait là trop de force, trop de verdeur, tout excès est mortel. Ce n'est presque jamais contre le cours des flots ou contre celui des volcans que le naturel descendu s'irrite et se défend. C'est contre les attaques des hommes. Le premier est une nécessité qu'il doit subir, l'autre une insulte qu'il veut repousser. Dans le premier cas, il y a impuissance à lutter, dans le second, il y aura faiblesse. Et le sang du chien est essentiellement brave. Il est impossible d'être lâche sur un terrain si tourmenté. Au surplus, étudiez le terrible Mauna Kea planant sur l'île pour la dévorer un jour. Voyez ses laves ardentes bouillonnant à la surface et ses feux tourbillonnant, offrant à l'œil le singulier et effrayant spectacle des fournaises souterraines. Suivez ces rivières brûlantes qui portent la mort et la destruction dans les vallées. Écoutez ces menaces retentissantes, ces mugissements profonds, ces horribles détonations des batteries du cratère qu'on retrouve partout, et vous comprendrez ce qu'il faut d'énergie et d'audace à l'homme de ces contrées pour consentir à les habiter. que si vous trouvez dans ma rapide analyse sur le sang du chien quelques contrastes, quelques antithèses morales, c'est qu'ils existent en effet et que le sol douillet est aussi partout un mensonge. En effet, ici, une grève de galets, là, une grève de sable. Ici, des rocs surplombés et déchirés par mille rigoles. Là, des plateaux unis et lisses comme si le frottement des siècles les avait usés. D'un côté, une végétation vivace, de l'autre, une nature marâtre qui cherche à l'exiler. Et puis la lave, au travers de laquelle s'échappent des pitons aigus de granit. Une mer furieuse, sans qu'on puisse en deviner la cause. Et le matin, une onde transparente et paisible, reflétant un ciel d'azur. Ouillé d'aujourd'hui ne ressemble point à Ouillé de la veille, et il ressemblera moins encore à Ouillé du lendemain. Je le répète, cette principale île des sandwichs est un mensonge perpétuel. Ainsi des hommes. Ouillé, ces larges charpentes, si bien faites pour résister aux secousses des éléments, ces masses fortes et robustes, taillées comme l'Hercule, eh bien, tout cela se repose sans fatigue, tout cela s'apesantit sans sommeil. Et puis encore, n'est-ce pas une imitation de la nature imparfaite et bizarre du sol, que ces usages si étranges d'une moustache sur une lèvre, tandis que l'autre est épilée, ses cheveux longs d'un côté courira de l'autre, n'est-ce pas une boutade, un caprice de fou, que la variété sans harmonie de ces dessins dont tout leur corps est bariolé? Les sandwichiens ont probablement appris que d'autres peuples avaient l'habitude de se peindre le corps, de se tatouer. Ils savent que chez eux la figure est zigzaguée de rainures et que le reste de l'homme est pur, que chez ceux-là, c'est le torse qui a reçu l'impression des piqûres, tandis que plus loin, les jambes ou les bras seuls en sont ornés. Eh bien, eux, les sandwichiens, ont voulu se différencier, et par un privilège d'extravagance inconcevable, les plus coquettes sandwichiennes se font tatouer la langue. Encore si ces dessins étaient le résultat d'un travail régulier exécuté avec le même instrument, mais point. Ce sont tantôt des égratignures assez profondes, tantôt des piqûres imperceptibles. Ce sont aussi des plaies qui rient et chiffonnent la peau, des brûlures qui lui donnent une teinte livide, de telle sorte qu'on croirait les individus frappés de maladies cutanées. Voilà bien des soins pour gâter une belle œuvre, voilà bien des recherches dépensées au profit de la laideur. Voilà une bien ardente imagination en travail pour détruire une harmonie. Que d'études à faire sur le peuple de cet archipel? Ajouterai-je que le langage vient encore me fournir un nouvel argument? Ce n'est plus ici une musique suave comme celle du Chamor, ni la gravité espagnole, ni la douce mélodie des Carolins. Ce n'est pas non plus l'articulation éclatante des Malais, ni le glapissement lugubre des Papous. Mais il tient un peu de ces divers dialectes par ceux-là seuls qu'ils diffèrent de tous. Le parler sandwichien est guttural et vibrant à la fois. Il vit par saccade et par soubresaut. Avant de sortir, telle syllabe a l'air de prendre de l'élan, de se consulter, tandis que d'autres, poussés avec rapidité, partent et bruissent comme une détonation ou plutôt comme un roulement de coups de fouet. Au surplus, je ne peux le comparer qu'aux grognements et aux aboiements d'une meute de chiens rongeant des os qu'on veut leur arracher. Ce n'est pas tout. Ce langage si bizarre, si lent et si rapide à la fois, offre des singularités plus étranges encore. Au gré des habitants, la plupart des lettres, ou plutôt la plupart des sons, ont le droit de se modifier, de changer, sans qu'on en puisse accuser le défaut d'organisation physique des hommes. Ainsi, l'on dit, selon le caprice, Riou-Riou, ou bien Ou-Riou-Riou, ou bien Liou-Liou, ou bien encore Liou-Liou, donc le R se transforme en L et Lou en O simple. On dit encore Kayakaboa ou Tayatatoa et Koyai ou Toyai. Le T et le K se chassent mutuellement l'un l'autre selon le bon vouloir ou la fantaisie. À Kayakakoa ou à Tayatatoa, on nous parlait de Tamahama ou de Kamahama, ou plus souvent encore de Tameamea. Et ce qui ajoute à l'étrangeté sauvage du parler sandwichien, c'est qu'après chaque phrase ou chaque mot se terminant par un bruit aigu, on est forcé de sentir le H par une aspiration très prononcée. Ainsi, l'on ne dit point Pa ou Mounaka, mais bien Pa et Mounaka, comme si, après avoir jeté au dehors le H du mot, on voulait la ressaisir en aspirant. Il faut bien que je vous dise toutes mes observations, puisque je m'y suis engagé dès mon début. Et cette étrange cérémonie des sanglots et des larmes, qui a lieu à la rencontre de deux amis, après quelques jours de séparation, cérémonie terminée si brusquement et si grotesquement par le rire, n'est-ce pas encore une fois la reproduction fidèle des colères des volcans qui se calment sous le plus beau ciel des tropiques? Si, chez les hommes, le goût des dessins dont ils se bariolent le corps est général, chez les femmes de tout âge, ces ornements sont une passion, une rage, une frénésie. On en voit dans toutes les demeures, sur toutes les places publiques, sur la plage, sur les bananiers. Passer là des journées entières à cette opération, dont l'artiste ne semble pas se fatiguer plus que le personnage qui pose. Pour ses tatouages, dis-je, on adapte verticalement à une baguette longue de 8 ou 10 pouces un tout petit os formant trois pointes ou les ongles aigus d'un oiseau qu'on rapproche à l'aide d'un fil de bananier. Cette patte d'oiseau ou cet os est noué fortement à l'extrémité de la baguette. On l'appuie sur la partie à tatouer, qui est déjà dessinée en rouge ou en noir, et on suit ainsi tous les contours en frappant avec une autre baguette sur la première des coups légers et rapides, de sorte que les pointes, en entrant dans la peau, causent une légère irritation sans douleur et une boue fissure qui ne s'en va qu'au bout de quelques heures. Après cela, on frotte assez longuement la partie dessinée avec une feuille large, amère et pleine de sucre, et la figure, qui n'était d'abord que faiblement colorée de rouge, devient d'un bleu foncé, se mariant parfaitement avec la couleur cuivrée des sandwichs chiens. Ainsi donc, tout est harmonie dans le désaccord physique et moral des îles Sandwich. On dirait que le sol a fait les hommes ou que les hommes ont élevé le sol selon leurs fantasques humeurs. Des corps tatoués d'un seul côté figurant, à s'y méprendre, un ouvrage commencé ou un fou à demi barbouillé d'encre. Ici, une seule moustache, là, un côté de la tête rasé, et généralement une fille avec une seule boucle d'oreille, et mille autres singularités que je n'ose ou que je ne veux pas dire, afin que vous alliez vous-même ajouter les arguments aux miens, déjà fort nombreux, et traduire mieux que moi les contrastes qui se développent à chaque pas au regard observateur. Je dis les choses qui sont, qu'un plus habile les explique.